Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés.
Je vais vous parler aujourd'hui d'un couple d'écrivains peu communs. Tous deux sont originaires de Belgique et vivent dans le Lot. Il s'agit de Miette Rondet, romancière et poète qui anime souvent des ateliers d'écriture et qui est auteur de plusieurs romans, dont Madame Robinson, paru aux éditions Flammarion, et de Jean-Pierre Hoth, romancier, peintre et conférencier dont je vous ai déjà parlé et qui a publié une bonne trentaine d'ouvrages. L'un et l'autre sont des amoureux des mots, des voyageurs de l'instant présent, des observateurs de la vie de la nature, des magiciens de l'écriture transversale. Ce sont aussi à leur manière des francs-tireurs, des réfractaires au prêt à penser et au prêt à consommer qui invitent à composer d'oreilles avec les énigmes que l'on porte en soi. Épicurien de haut vol, Jean-Pierre Hoth est sans nul doute l'un de nos plus grands stylistes. Cet observateur du vivant, fin conteur à 16 heures, sait comme nul autre célébrer le plaisir d'exister. Il n'a pas son pareil pour relater les rites amoureux des animaux, notamment dans l'amour en eau dormante ou dans la sexualité d'un plateau de fruits de mer. Et il en a séduit plus d'un par des récits plus personnels, mêlant accessoires et essentiels, humour et gravité, lecture et flânerie, érudition et digression sur le motif. Tel est le cas notamment de La petite tribu des femmes, du cercle des lecteurs autour d'une poêlée de châtaigne ou du labyrinthe des désirs retrouvés. Les amateurs de cosmogonie ne sont pas prêts d'oublier la trilogie qu'il a consacrée au mythe premier du cercle arctique, aux deux Amériques et à l'Afrique noire, à l'Océanie et à l'Australie. C'est ce cycle intitulé « Les aubes sauvages »,« Les aubes enchantées »,« Les naissances de la femme » ont été réunis en 2017 en un seul et même volume intitulé « Le mythe de la création ». Un travail titanesque qui fera date dans l'histoire littéraire. Dans « Mes anticorps », Jean-Pierre Hoth revient sur son refus de toute compromission littéraire et sur le rôle qu'il assigne à l'écriture, cette immunité merveilleuse qui nous aide à réinventer la vie. Voilà un premier aperçu de quelques-uns de ces anticorps, de ces aphorismes de survie qui nous sont injectés dès les premières pages. Un livre, nous dit Jean-Pierre Hoth, n'existe vraiment que dès lors qu'un lecteur l'a recréé en lui-même. L'écrivain, poursuit-il, est un lieu où les choses se passent sous les apparences. On peut encore lire l'aphorisme suivant « L'âme est le rêve de la chair » ou « Le peintre ne peint plus, il fait apparaître, voici venu le temps des apparitions ». Plus loin, on peut encore tomber sur cette phrase, cette pensée « L'existence ne va pas sans coexistence » ou bien encore « On se pressent avant d'être présent, on est passage avant d'être un passant, on s'entrevoit avant de se voir, on se devine avant de se vivre ». L'aphorisme qui est censé résumer en quelques mots une vérité fondamentale va comme un gant à cet ennemi juré de la pensée unique et des ravages causés par la standardisation éditoriale. Dans un autre ouvrage intitulé « La moindre mesure du monde » publié à l'Étoile des Limites, on retrouve cette façon à nul autre pareil de faire d'une seule et même phrase la lisière des mondes croisés, une disponibilité d'esprit qui puise ses ressources dans le terreau fertile des mots et dans ce que la langue a de plus organique. Jean-Pierre Hoth nous propose vraiment un bien beau chemin vers l'accomplissement de soi, dans la poésie de l'instant et les mystères inhérents à la vie. En complément de ces anticorps, publiés d'ailleurs aux éditions Le Temps qu'il fait, vous pouvez lire le nouveau roman de Miette Rondet, Un hiver fertile, publié aux éditions Complicité. C'est pour moi une véritable découverte, la découverte d'une voix singulière, d'une écriture musicale, d'un univers bien particulier et d'un jeu de résonance à l'intérieur de soi. Sur la couverture, on peut voir la photographie d'une villa balnéaire, un peu vétuste, un peu sur la défensive, d'un refuge niché à flanc de falaise avec un beau window avec vue sur la plage. Cette maison, digne d'un tableau d'Édouard Aubert, est l'un des personnages principaux de ce roman choral où les apparitions et disparitions des uns ou des autres finissent par tisser la trame dramaturgique de cette saison en bord de mer. Le titre même du premier chapitre, intitulé « Sous le miroir nocturne de l'eau », nous en dit long sur le sortilège et sur le jeu de reflets et de contre-reflets qui s'empare peu à peu du lecteur. Tout commence par une mystérieuse disparition d'une vieille femme indigne qu'on appelle Rune et qui ne reviendra pas de la plage. Tout se poursuit avec la réapparition soudaine d'une seconde disparition, celle de Paul, le compagnon de Dina, la petite fille de Rune. Cette même Dina va noyer son chagrin et son désarroi dans cette maison-mère, dans cette matrice originelle, dans cette arche providentielle qui a résisté à toutes les tempêtes, à toutes les dérives et à tous les non-dits. Cette maison, apparemment située dans le sud-ouest, est un peu comme une maison de contes de fées, avec ses malédictions, ses rites de passage, ses transformations intérieures. Chaque soir, des femmes s'y retrouvent. Il s'agit du cercle des fileuses, des brodeuses, des tricoteuses et des détricoteuses de vie. Cercle féminin pluriel, cercle de la vie et de la mort, cercle de la musique lancinante des rouets, cercle tissé par les parcs de la destinée, cercle de toutes les métamorphoses. Dans cette maison quelque peu hantée, Nina redécouvre la figure centrale de cette assemblée de femmes. Le visage ridé de Rune, sa grand-mère guérisseuse qui avait fondé ce cercle de fileuses. On ne retrouvera jamais Rune, mais on retrouvera un peu de ce passé qui flotte à la surface du temps présent. Voilà ce qu'on peut lire au tout début de ce roman, page 11. En un prélude à l'éternité retrouvée, Rune nageait entre les étoiles. D'un frémissement continu, le long du dos, presque une ondulation, elle se propulsait au sein d'un banc de poissons qui, sur son passage, explosait. Panique collective et pour ainsi dire organisée. Mais déjà son corps lourd, corpulent, qui dans l'eau retrouvait une incroyable souplesse, se retournait avec aisance et revenait, échine sinuant, ressemait la déroute dans le menu fretin. Ce jeu ravivait en sensation une identité ancienne, perdue ou abandonnée, pour quelque raison oubliée. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, si ce n'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil littéraires à lire entre les lignes, comme si pour miettes rondées tout était prétexte à lecture et à réécriture. Voilà d'ailleurs ce que dit l'un de ces personnages. « Je ne lis pas pour rester à l'écart du monde et de mes contemporains, mais pour mieux en explorer la diversité. Les livres m'ouvrent à la multiplicité fertile de la vie et des passions. Ils m'offrent une panoplie d'existences dans laquelle puiser pour forger la mienne ou mieux la comprendre. » Vous l'aurez compris, Un hiver fertile est à sa manière un roman initiatique, une quête originelle de nos univers parallèles et de toute vie qui sommeille en nous.
C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.